RFI, 7h, à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin, Julien Coquel-Rohem.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal, comme chaque jour. Bonjour Léa Boutin-Rivière.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
Un Joe Biden combatif en Caroline du Nord pour faire oublier sa contre-performance de la veille.
En meeting, le président américain a tenté de rassurer après le débat contre Donald Trump, au cours duquel il s'est montré affaibli et parfois hagard, au point que certains l'appellent à se retirer de la course à la Maison-Blanche d'ici novembre. Scrutin sous haute tension en Nouvelle-Calédonie, l'archipel français vote un peu en avance pour les législatives anticipées. Couvre-feu, interdiction de rassemblement des milliers de forces de l'ordre, un important dispositif sécuritaire après des semaines de violence et de tension. Également dans ce journal, l'inquiétude au Liban face au risque d'escalade entre le Hezbollah et Israël. Et en Guinée, la colère de la société civile après un scandale d'agression sexuelle sur mineurs à la Fédération de football.
Aux États-Unis, il faut sauver le soldat Biden.
Le chef d'État sortant est-il sur la sellette pour la présidentielle de novembre? Il est en tout cas en difficulté, 24 heures après un premier débat contre son rival républicain Donald Trump. Un exercice poussif au cours duquel le président, âgé de 81 ans, s'est montré parfois confus ou hésitant. La contre-performance a inquiété jusque dans ses propres rangs. Et même sa vice-présidente Kamala Harris a reconnu que Joe Biden avait été lent au démarrage. Alors en meeting hier en Caroline du Nord, le président sortant a voulu rassurer et a montré un visage bien plus combatif, Lubna Anaki.
Thank you, North Carolina.
Face à des partisans venus le voir en Caroline du Nord, Joe Biden semblait avoir repris du poil de la bête. Il a retrouvé sa voix et le fil de ses pensées.
Nous allons protéger et préserver notre démocratie.
On était bien loin de l'image du candidat confus et hagard qu'il a présenté face à Donald Trump quelques heures auparavant. Le président démocrate a d'ailleurs répondu aux nombreuses critiques qui ont suivi sa faible performance.
Je sais que je ne suis plus un jeune homme. Je ne marche plus aussi facilement. Je ne parle plus aussi élégamment. Je ne débat plus aussi bien. Mais je sais au moins dire la vérité. Je sais discerner le bien du mal et je sais comment faire le job.
Une attaque directe adressée à son adversaire républicain qui a multiplié les mensonges lors de ce premier débat de campagne. Tout en reconnaissant son mauvais passage jeudi soir, Joe Biden a assuré « Je vous promets que je ne serai pas candidat si je n'étais pas persuadé de pouvoir faire ce travail ». Lubna Anaki, New York, RFI.
Mais cette prise de parole suffira-t-elle à calmer l'inquiétude? Eh bien, rien de moins sûr. Le New York Times, prestigieux quotidien, a même publié il y a quelques heures un éditorial dans lequel plusieurs journalistes appellent Joe Biden à se retirer de la course à la Maison-Blanche. Il a été un président admirable, salue le texte, mais le plus grand service public qu'il pourrait rendre aujourd'hui serait d'annoncer qu'il ne se représentera pas à l'élection, assène le quotidien. Le camp du président a encore 4 mois pour se décider.
Alors que les électeurs français, eux, n'ont plus 15 jours.
Et même moins pour certains. Le premier tour des législatives anticipées convoquées par Emmanuel Macron aura lieu demain. Mais en Nouvelle-Calédonie, décalage horaire oblige, 9 heures de plus qu'en métropole. Les bureaux de vote ouvrent dès ce samedi. Or, le contexte est particulièrement tendu après les violences du mois de mai. Et la crispation n'est toujours pas redescendue. Alors le scrutin aura lieu sous haute surveillance, Pierre-Olivier.
Partout sur l'archipel du Pacifique, les rassemblements sont interdits jusqu'à 20h dimanche. Le couvre-feu entre 20h et 6h est quant à lui prolongé jusqu'au 8 juillet, le lendemain du second tour des élections législatives. Des mesures qui interviennent alors que la participation attendue pour le premier tour s'annonce importante en Nouvelle-Calédonie, en proie à des violences depuis 2 mois sur fond de réforme du corps électoral. Un regain de tension avait par ailleurs été observé après le transfèrement en métropole il y a 8 jours de 7 militants indépendantistes. Sur l'archipel, alors que les écoles sont fermées depuis 7 semaines pour raisons de sécurité, certaines rouvriront pour servir de bureau de vote. Mais encore faudra-t-il que les électeurs puissent y parvenir, car de nombreux barrages routiers bloquent toujours les principaux axes de circulation. En Nouvelle-Calédonie, la campagne pour les législatives a été quasi inexistante. Presque aucun panneau électoral n'a pu être installé. Au total, près de 4000 policiers et militaires sont déployés sur le territoire et tenteront d'assurer la bonne tenue du scrutin.
Pierre-Olivier, quant à l'Iran, le rendez-vous dans les urnes, c'était hier. 60 millions d'Iraniens appelés à choisir leur futur président. Les premiers résultats partiels donnent Saïd Jalili, conservateur proche du guide suprême, en tête, juste devant le réformateur Massoud Pezeshkian, Quant à la participation, elle est à ce stade estimée à 40%, en dessous des chiffres de 2021, qui représentaient déjà un plus bas historique. Les résultats définitifs devraient être dévoilés demain au plus tard.
L'Iran où les diplomates haussent le ton face à Israël.
La mission iranienne à l'ONU a averti hier, il y aura une guerre d'anéantissement si l'État hébreu lance une agression militaire de grande ampleur contre le Liban. Car les échanges de tirs se poursuivent entre le Hezbollah et Israël, tout comme l'escalade verbale. Le mouvement libanais a revendiqué hier deux attaques contre des positions israéliennes après la mort de quatre de ses combattants.
Et ce contexte, Léa, préoccupe de plus en plus.
La communauté internationale d'abord. Plusieurs responsables des Nations Unies et des chancelleries occidentales ont mis en garde hier contre une extension du conflit. Et puis au Liban, surtout. Hier, le chef de la diplomatie a demandé de la solidarité vis-à-vis de Beyrouth et l'intensification des pressions pour qu'Israël mette fin à son agression militaire. Autant de développements qui inquiètent la population, Laure Stéphane.
Le jeune Saadé a toujours vécu à Ain El Remen et une banlieue au sud de Beyrouth. Alors que la rhétorique belliqueuse enfle entre le Hezbollah et Israël, il s'inquiète.
Pourvu que rien ne se passe, nous ne pouvons plus supporter davantage ni conflit ni guerre économique. S'il y a une guerre, ce sera un grand effondrement pour le Liban. Nous ne voulons pas qu'il y ait la guerre.
Le ministre israélien de la Défense a menacé il y a quelques jours. Son pays, dit-il, a la capacité de ramener le Liban à l'âge de pierre en cas de conflit généralisé. Ali, voisin de Saadé, hausse les épaules.
Il n'y aura pas de guerre. Les menaces israéliennes sont creuses. Pourquoi devrions-nous avoir peur? Nous sommes habitués. J'étais petit pendant la guerre de 2006. Je ne m'en souviens pas. On est juste confronté à une guerre psychologique.
Des ambassades comme celle d'Allemagne ont demandé à leurs ressortissants de quitter le Liban. Assis sur une chaise à l'ombre du soleil brûlant, Omar est irakien. Les nouvelles le minent.
Nous avons fui une guerre. Est-ce pour en retrouver une autre ici? J'ai peur pour les miens, j'ai des enfants. Les avertissements et les menaces annoncent peut-être une guerre. Des menaces avant une guerre, ça fait peur.
Le risque d'une grande déflagration est dans tous les esprits. Cela n'empêche pas de nombreux Libanais de profiter du début de l'été, comme si de rien n'était. Laure Stéphane, Beyrouth, RFI.
Et les combats toujours dans l'enclave palestinienne. Des dizaines de milliers de personnes ont fui la ville de Gaza, où l'armée israélienne mène depuis jeudi des opérations contre le Hamas, à la fois par la terre et par les airs.
RFI 5h08 à Conakry en Guinée, où la fédération de football reste empêtrée dans un scandale d'agression sexuelle.
Des faits qui auraient été perpétrés sur des jeunes filles mineures. D'après un témoignage diffusé en début de semaine sur RFI, un véritable système pédocriminel serait installé au sein du centre de Nungo à Conakry. Dans la foulée de ce témoignage, les associations féministes ont bondi, et notamment le club des jeunes filles leaders de Guinée. L'organisation demande au procureur de la République de s'autosaisir du dossier alors que l'enquête piétine depuis un an. Sa directrice exécutive, Oumou Kéri Diallo.
Aujourd'hui, le cas de la Fédé Foot est un exemple parmi tant d'autres. Et que ce soit l'opinion nationale et internationale, nous avons tous suivi des cas de violences sexuelles qui sont passés sous le silence, sur lesquels il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait. En dépit de tous les textes de loi qui existent, en dépit de toutes les structures aujourd'hui qui existent, qui doivent enquêter et être aux côtés de la population pour que justice soit rendue, malheureusement, si encore une fois la société civile, les organisations, de promotion des droits des femmes ne se mêlent pas, ne pointent pas les dossiers du cas. Malheureusement, ça n'avance pas du côté de la justice. Et nous déplorons en tout cas un certain manque de volonté à ce niveau. Et la situation, elle est alarmante parce qu'aujourd'hui, nous peinons à avoir les résultats escomptés vis-à-vis de toutes les actions que nous menons sur le terrain. C'est parce qu'à un moment donné, toutes les parties prenantes de la chaîne de protection et de défense ne s'impliquent pas à la hauteur de leurs responsabilités pour parvenir à lutter contre ces violences-là.
Propos recueillis par Sidi Yansané. Un congrès attendu et surtout très polémique en Allemagne. L'AFD, parti d'extrême droite, se réunit ce week-end pour renouveler sa direction. Entre des scandales à répétition ces derniers mois et des résultats moyens aux élections européennes, la formation espère relever la tête d'ici les scrutins régionaux de la rentrée. Pascal Thibault.
600 délégués de l'AFD et plusieurs dizaines de milliers de manifestants à l'extérieur pour protester contre la tenue du congrès du parti d'extrême droite. La ville de Essen dans la Ruhr va être en état de siège ce week-end. La municipalité avait tenté en vain de rompre le contrat de location conclu par l'AFD. La halle Gruga fut le théâtre d'un autre congrès en 2015 où le jeune parti, dans une ambiance survoltée, avait débarqué son président fondateur, qui subit alors une humiliation sans précédent. L'atmosphère sera-t-elle plus paisible pour cette nouvelle édition ? L'AFD a derrière elle des mois difficiles avec des scandales autour de financements supposés venant de Russie et de Chine, une tête de liste pour les européennes mise sur la touche et une exclusion de ses députés du groupe Identité et Démocratie à Bruxelles, l'AFD étant jugée trop sulfureuse, notamment par le Rassemblement National. Le score du parti le 9 juin au soir était en deçà des attentes de l'Alternative pour l'Allemagne, mais les 16% obtenus signifient en même temps un progrès substantiel par rapport aux européennes de 2019. Le parti veut sans doute tirer un trait sur ces mois difficiles et se concentrer sur trois régionales à l'Est en septembre, où l'AFD arrive partout en tête et compte bien triompher. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Et puis 176 coureurs cyclistes piaf sur la ligne de départ du Tour de France.
La plus mythique des courses cyclistes s'élance aujourd'hui et pour la première fois en 111 éditions, les coureurs prennent le départ à Florence en Italie pour une première étape italienne qui les emmènera à Rimini. Pas d'entrée en matière progressive. Dès aujourd'hui, il va falloir parcourir 206 km avec 7 ascensions et sous un soleil brûlant. L'épreuve du jour promet donc un premier tri, des écarts entre favoris et pourquoi pas même un premier duel entre Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Mais tout cela n'est que supposition car l'état de santé des deux hommes reste un secret jalousement gardé, Thomas de Saint-Léger.
On l'avait laissé, immobile, en chien de fusil, dans un ravin du Pays Basque avec un pneumothorax, des côtes et une clavicule cassée. Trois mois plus tard, revoilà Jonas Vingegaard en tenue de cycliste, sourire carnassier, mais ambition nuancée.
Pour être honnête avec vous, je ne sais pas trop où j'en suis. Je n'y pense pas trop, je vais essayer de faire de mon mieux jour après jour. J'ai envie de me battre pour le maillot jaune. Je ne vais rien lâcher. Et si je suis là, c'est que je suis prêt pour ça.
Un discours un poil ambigu que le Danois répète à l'envi et en personne. Une manière de lancer la guerre des nerfs dans le camp d'en face. Pogačar, lui aussi, joue la carte brouillard. Il annonce avoir été touché par le Covid il y a quelques jours, puis envoie ses coéquipiers pour rassurer. Le Français Pavel Sivakov.
Tadej, sur toutes les courses où il se présente, il est favori. J'étais avec lui quand il a eu le Covid et ça n'a pas changé sa préparation tant que ça. Donc au final, on est toujours confiant.
Alors, qui bluffe, qui va se découvrir avant l'autre ? Un outsider pourrait-il profiter d'un éventuel marquage entre les deux grands favoris ? Première réponse aujourd'hui sur la route de Rimini. Thomas de Saint-Léger, Florence RFI.
Et puis l'autre rendez-vous sportif du moment, c'est l'Euro de football. Les huitièmes de finale démarrent aujourd'hui à 16h temps universel. La Suisse et l'Italie s'affrontent. Puis à 19h TU, ce sera au tour de l'Allemagne et du Danemark de se confronter. Rencontre diffusée en direct et en intégralité par la Radio du Monde.
Merci Léa Boutin-Rivière. RFI Matin, 3h d'information, samedi 29 juin 2024, l'Iran à la une. Au lendemain de la présidentielle, les électeurs ont-ils répondu à l'appel du guide suprême pour une forte participation ? La fermeture des bureaux de vote a été repoussée à plusieurs reprises, jusqu'à minuit, mais les premiers chiffres et les remontées du terrain laissent entrevoir une abstention importante. Décryptage avec Siavosh Ghazi à Téhéran à 6h, temps universel, et dans une heure avec notre invité, le spécialiste de l'Iran, Thierry Covey. L'autre élection à la une aujourd'hui, la présidentielle en Mauritanie, le journal Afrique, c'est dans moins de 20 minutes. Et puis les sports comme chaque matin, Victor Messistrano avec nous pour un premier point dans une demi-heure. Et du sport déjà, puisque c'est aujourd'hui une première dans l'histoire du Tour de France, la 111e édition de la plus célèbre des courses cyclistes va s'élancer de l'Italie, départ de Florence, pour cette première étape qui arrivera à Rimini, une ville qui a marqué l'histoire de ce sport. Car c'est là, à Rimini, qu'il y a 20 ans, la police retrouvait le corps sans vie de Marco Pantani, dernière grande icône populaire du cyclisme italien, dernier coureur à avoir gagné le Tour de France et le Tour d'Italie la même année, en 1998. Hommage appuyé, puisque la deuxième étape s'élancera dimanche de Cesenatico, sa ville natale, une petite station balnéaire où il repose désormais et où de nombreux tifosi viennent encore lui rendre hommage. Thomas de Saint-Léger.
Le pèlerinage débute à la descente du train. Un petit bâtiment en briques collé à la gare. Voici l'espace Pantani, trois pièces bien chargées, entièrement dédiées aux exploits du pirate. Derrière le comptoir ce jour-là, Ferdinando di Paolo, son papa.
Ce musée, je l'ai fait construire et j'ai rassemblé tous les souvenirs, les maillots, les trophées, les vélos de Marco. Il est ici avec nous.
Marco en maillot jaune, en maillot rose, avec le pape, Marco à moto, en photo ou sur des écrans, le visage de l'icône est partout. Chaque année, 12 000 visiteurs du monde entier, toutes générations confondues, viennent se souvenir du champion d'exception et de l'homme qui leur ressemblait tant. Pierrot a fait près de 1000 km pour passer quelques minutes ici.
Sur le livre d'or, j'ai écrit « On ne t'oubliera jamais ». Encore aujourd'hui, je regarde des vidéos de lui sur YouTube et ça me donne des frissons. Maintenant, il y a plein de bons coureurs, mais des comme lui, non. Personne ne nous donne ses émotions, pas même Pogacar.
C'est un style, Pantani. Il y a eu des chansons sur Pantani. Ça devient un héros, presque la culture populaire.
Pierre Carré est journaliste spécialisé, auteur d'un livre sur le cyclisme italien.
La légende courait que Marco Pantani devait freiner dans les virages de l'Alpe d'Huez en montée. Il avait le bandana. C'était un pirate. Pantani, c'est l'anarchiste, l'homme qui vient prendre une revanche sociale, défier les plus grands. Il détestait Armstrong. Pour lui, Armstrong, c'était un parvenu. C'était aussi un robot. C'était un maître. L'homme qui voulait réduire le peloton en esclavage. Et Pantani, face à Armstrong, c'est l'homme qui s'est levé, qui disait « moi, jamais ».
À quelques centaines de mètres du musée, dans le cimetière de la ville, Gabriella et son mari viennent de se recueillir sur la tombe de Marco Pantani.
À chaque fois que nous venons profiter de la mer, nous faisons une étape par ici. J'aimais la façon d'être de Pantani, sa simplicité. Je pense que c'était un bon garçon, mais il a mal fini.
Il a fini seul dans une chambre d'hôtel anonyme, overdose de cocaïne, un suicide selon une enquête contestée par la famille. Depuis quelques années, Pantani allait mal, un contrôle antidopage positif, une exclusion de course. La part d'ombre de sa vie l'a emporté et les coureurs d'aujourd'hui prennent leur distance, à l'image de Romain Bardet.
C'est pas une génération dont j'aime forcément me rappeler, c'est dans les années sombres du vélo. Mais après voilà, on voit que c'est un champion qui est adoré. On l'aura qu'il a, certainement la fin tragique aussi, je sais pas, il y a une sorte de mythe. Mais oui, moi voilà, j'ai pas grandi avec ces idoles-là.
Idole contestée, mais idole quand même, Marco Pantani restera l'un des derniers romantiques du cyclisme. Un sport où aujourd'hui, les pirates se font rares. Thomas de Saint-Léger, Cesenatico, RFI.
Reportage à retrouver sur RFI.fr et le Tour de France qu'on suit bien sûr sur RFI. Il dirige le Labour depuis 2020. Il a choisi de recentrer le programme et le discours du parti travailliste britannique, stratégie payante. Pour Keir Starmer, qui devrait, sauf coup de théâtre, remporter les élections anticipées de la semaine prochaine au Royaume-Uni. Bonjour Daniel Valot.
Bonjour.
L'Européen de la semaine et les travaillistes qui ont en effet toutes les chances de battre dans les urnes le parti conservateur de Rishi Sunak.
Oui, c'est ce qu'annoncent en tout cas les sondages qui accordent, tenez-vous bien, 20% d'avance au Labour. Cette avance, Keir Starmer essaye à tout prix de la conserver en restant d'une très grande prudence durant ses derniers jours de campagne. Le dirigeant travailliste veut rassurer les électeurs, notamment sur un point crucial, celui des impôts.
En ce qui concerne la fiscalité, je dois être très clair. Nous n'allons pas augmenter l'impôt sur le revenu ou la TVA. Ce n'est pas la bonne chose à faire, en particulier pour les travailleurs.
Avec sa coiffure sage et son air quelque peu coincé, Keir Starmer est un peu l'antithèse de Boris Johnson, l'ancien Premier ministre conservateur, peu charismatique, travailleur et pas vraiment du genre à plaisanter. Cet ancien avocat de 61 ans, fan de football et père de deux enfants, est issu d'un milieu modeste, ce qui a forgé en partie son caractère et ses convictions. Écoutez le journaliste britannique Tom Baldwin, auteur d'une biographie de Keir Starmer.
His dad was...
Son père était un ouvrier qualifié, un homme très compétent. Mais dans son village du Surrey, une région plutôt chic, je pense que les gens méprisaient son père. Il travaillait dans une usine et cette sorte de snobisme est quelque chose dont Keir Starmer a souffert et qu'il porte encore aujourd'hui. Il est donc le premier dirigeant travailliste depuis très longtemps à parler de classe sociale et de mépris social.
Après des études brillantes, Keir Starmer choisit de devenir avocat et se spécialise dans la défense des droits de l'homme.
Oui, en 2015, il se lance en politique et devient député pour le Parti travailliste. 4 ans plus tard, le Labour de Jeremy Corbyn est sèchement battu dans les urnes. Keir Starmer prend la tête du parti et replace au centre de l'échiquier politique une formation qui semblait alors incapable de revenir aux affaires. Pauline Schnapper, professeure à la Sorbonne Nouvelle et spécialiste du Royaume-Uni.
Il a d'abord écarté un certain nombre de proches de Corbyn qui étaient
encore dans les instances du parti. Il a donc exclu Corbyn lui-même. Il a recentré les éléments de politique qui étaient les plus impopulaires chez Corbyn, et notamment tous les sujets de politique étrangère sur lesquels Corbyn était clairement en dehors du consensus britannique général, que ce soit sur la Russie, sur les États-Unis, sur l'Ukraine. Starmer est vraiment revenu dans les clous, si je puis dire, de cette politique étrangère traditionnelle, donc proche des États-Unis, soutien à l'Ukraine, soutien à Israël, etc. Donc ça a été un élément très, très important.
Une purge au sein du Parti travailliste qui permet également à Keir Starmer de lutter contre les accusations d'antisémitisme formulées, Daniel, à l'époque, contre le Labour.
Oui, et Keir Starmer complète ce recentrage par un volet économique en renonçant notamment au programme de nationalisation défendu par Jeremy Corbyn.
Il y a une raison électorale qui ne faut pas faire peur aux électeurs et notamment à ceux qui avaient voté conservateur. Et comme c'est une tactique qui, pour l'instant, semble très bien marcher et n'y a pas de raison de la modifier, il y a aussi que la situation économique actuelle et notamment la situation budgétaire est tellement mauvaise que les travaillistes et Starmer en particulier font attention de ne pas faire miroiter des dépenses inconsidérées qui ne seraient en réalité pas envisageables. Les caisses sont vides, si vous voulez. Donc, c'est la raison pour laquelle Starmer insiste surtout sur la nécessité d'augmenter la croissance et de faire tout ce qu'il faut pour que la croissance soit reparte et que, du coup, les rentrées fiscales soient plus importantes.
À l'approche des élections, Keir Starmer profite d'un contexte politique très favorable avec l'effondrement du Parti conservateur. Mais aux yeux du journaliste Tom Baldwin, il a eu aussi le mérite de définir une stratégie et de s'y tenir.
To keep it steady.
Ce n'est pas une mince affaire de garder le cap sans se prendre les pieds dans le tapis, et c'est difficile d'être perçu comme quelqu'un de solide. Ce n'est peut-être pas spectaculaire, mais c'est une vertu sous-estimée en politique.
Et sauf coup de théâtre, cette stratégie rassurante et prudente devrait conduire l'ancien avocat au 10 Downing Street et à la tête du premier gouvernement travailliste depuis 14 ans.
Et on suivra ça bien sûr sur RFI. Daniel Valo, merci beaucoup. Sur RFI, le journal Afrique dans moins de 10 minutes. Avant ça, la une de Jeune Afrique nous emmène ce matin au Niger. Bientôt un an après le coup d'État, le président renversé Mohamed Bazoum refuse toujours de démissionner. Catherine Potet en parle avec notre consoeur Manon Laplace.
À la une de Jeune Afrique cette semaine, le Niger, où Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet 2023, est toujours séquestré au palais présidentiel. Cela fait donc presque un an qu'il est privé de liberté et il pourrait être prochainement jugé puisque la justice lui a retiré son immunité présidentielle. Nous en parlons avec vous, Manon Laplace, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la situation au Sahel et particulièrement au Niger au sein de Jeune Afrique. On le disait, l'immunité de Mohamed Bazoum lui a été retirée. On peut donc s'attendre à des poursuites. Que lui reproche-t-on exactement ?
Oui, tout à fait. Alors le 14 juin, la Cour d'État, il faut le rappeler, c'est un organe qui a été créé sous la transition militaire, lui a retiré son immunité présidentielle au motif de crimes de trahison et de complot et attentats ayant pour but de porter atteinte à la sûreté de l'État. En substance, les autorités lui reprochent d'avoir pris langue avec des puissances étrangères et d'avoir tenté de s'évader en octobre dernier, une tentative d'évasion supposée que dément formellement l'entourage de Mohamed Bazoum.
Il est toujours retenu, donc hors de tout cadre légal.
Tout à fait. Le 26 juillet, ça fera un an qu'il est retenu avec son épouse au palais présidentiel. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de procédure légale qui justifiait cette séquestration. Avec la décision de la Cour d'État de lever son immunité, il pourrait être poursuivi par le tribunal militaire de Niamey. Il faut rappeler que pour l'instant, il n'est pas formellement inculpé. Ses avocats, qui n'ont pas accès à lui et qui ne peuvent pas lui rendre visite au palais présidentiel, dénoncent une parodie de justice et, je l'ai dit, n'ont toujours pas accès à leur client.
Et Mohamed Bazoum, lui, refuse toujours de démissionner. Il ne faiblit pas.
Tout à fait. Alors, Mohamed Bazoum n'a plus de contact avec le monde extérieur, donc c'est assez difficile d'avoir des nouvelles. Il faut rappeler qu'après sa tentative d'évasion supposée, en tout cas la tentative d'évasion que lui reproche la junte du général Tiani, ses téléphones lui avaient été confisqués. Donc, ses proches ont parfois des nouvelles à travers son médecin qui peut lui rendre visite quelques fois par semaine. Et selon ses proches, effectivement, Mohamed Bazoum refuse toujours et inlassablement de démissionner. Contrairement, par exemple, à ses homologues maliens et burkinabés, on se rappelle d'Ibrahim Boubacar Keïta au Mali, qui avait démissionné après avoir été renversé. Même chose pour Rochmar Christian Kaboré au Burkina Faso, mais Mohamed Bazoum, lui, refuse catégoriquement. Ses proches le disent, il est prêt à aller jusqu'au bout.
Pourtant, ses comptes ont été gelés par la junte. Ses comptes et ceux de ses proches, une manière de faire une nouvelle fois pression sur lui. Quelles sont les conséquences précises de cette décision, Manon Laplace ?
Effectivement, on a appris récemment que les comptes, l'ensemble des comptes au Niger de Mohamed Bazoum, mais aussi de sa famille et de dizaines d'anciens collaborateurs comme des ministres, son ancien directeur de cabinet, des membres du PNDS, sa formation politique qui le soutiennent. Beaucoup de comptes ont été gelés dans l'entourage de Mohamed Bazoum. Alors effectivement, c'est une pression supplémentaire qui est mise sur Mohamed Bazoum et son entourage. C'est évidemment un moyen de pression supplémentaire, en plus du volet judiciaire qui pourrait s'ouvrir bientôt.
Merci Manon Laplace. Cet article est à retrouver sur jeuneafrique.com.
Bonjour Jennifer Lufaux.
Bonjour Julien.
Dans Bienvenue dans le Game, vous vous êtes lancé dans une mission vulgarisation. Aujourd'hui, on se penche sur le lexique.
Absolument. Lorsque vous entendez parler des jeux vidéo dans les médias ou dans la bouche des joueurs, vous risquez de vous perdre dans le jargon vidéoludique qui est vaste et parfois incompréhensible, il faut le dire. Alors dans notre volonté de vous faire découvrir le monde du jeu vidéo, on va s'intéresser cette semaine aux différents genres de jeux.
Il y a d'abord les FPS.
Oui, les First Person Shooters, ce sont tout simplement des jeux de tir à la première personne. Souvent, ce sont des jeux de guerre où, seul ou en équipe, vous devez tirer sur vos ennemis et les tuer pour avancer et gagner. Les FPS ont été popularisés dans les années 90 avec des jeux comme Doom et Wolfenstein. Maintenant que vous comprenez le principe, vous pensez sûrement à des FPS tels que Call of Duty ou Counter-Strike, des classiques du genre.
Ensuite, il y a les platformers ou jeux de plateforme en français.
C'est vraiment le jeu vidéo par excellence hein, pour les débutants. En effet, la simplicité des jeux de plateforme vous permet d'avancer, sauter, contourner des obstacles pour trouver la sortie. Les jeux de plateforme par excellence auxquels vous pensez certainement sont les Super Mario Bros, Donkey Kong, Sonic, etc.
Et souvent ce sont de beaux casse-têtes. Attention, autre acronyme, les MMORPG.
Oui, ou les MEPORG comme disent certains. Ce sont en fait donc les Massively Multiplayer Role-Playing Games. Ce sont des jeux de rôle qui se jouent en ligne et sont massivement multijoueurs. Les exemples de MMORPG les plus connus sont World of Warcraft, Ion, Dofus ou encore Final Fantasy XIV. Vous avez aussi des MOBA qui sont un genre différent puisqu'ils signifient Multiplayer Online Battle Arena. À la différence des MMORPG, les MOBA se déroulent dans des arènes fermées, là où les MMORPG permettent plus d'exploration. Ce sont donc des jeux qui mettent en avant l'esprit d'équipe, la stratégie, la communication et donc qui vont se prêter un peu plus à la compétition. C'est pourquoi ils sont populaires dans le monde de l'e-sport qui est dominé par League of Legends, dont on a déjà parlé, Dota 2 ou encore Heroes of the Storm. L'horreur, c'est également devenu un genre à part entière dans les jeux vidéo, puisque les jeux d'horreur sont devenus très populaires. Vous l'aurez compris, ils vous font frissonner, ils vous proposent des narrations à suspense, parfois du gore et d'autres fois des frayeurs psychologiques. Les plus connus du genre sont Resident Evil, Dead Space, Alan Wake et bien d'autres. Enfin, on ne terminera pas cette chronique sans évoquer les jeux de sport hautement appréciés, tels que FIFA pour le foot et NBA 2K pour le basket, mais aussi des jeux de combat comme Tekken, Street Fighter et Mortal Kombat, ou encore pour les jeux de course Trackmania, Need for Speed, Mario Kart ou encore Gran Turismo. La prochaine fois que vous achèterez des jeux vidéo, vous saurez exactement quoi demander aux vendeurs. Vous me remercierez plus tard.
Merci Jennifer Lufaux.
Avignon devient capitale mondiale du théâtre à partir du 29 juin. La nouvelle édition du Festival d'Avignon nous invite à chercher les mots ensemble pour dire et habiter ce monde avec 37 spectacles et expositions. Plus de 300 rendez-vous à destination de tous les publics avec cette année l'espagnol comme langue invitée et le chorégraphe Boris Charmatz comme artiste complice. En partenariat avec France Média Monde.
Vivez l'UEFA Euro 2024 sur RFI. Sofiane Amazian.
Qui pourra arrêter la tempête allemande? Avec 8 buts marqués et forte de 2 victoires et 1 nul en phase de groupe, la Nationalmannschaft veut aller au bout de son euro. En face, le Danemark, qui a tenu en échec l'Angleterre en poule, est prêt à créer la surprise. Allemagne, Danemark, 8e de finale de l'euro, à suivre en direct et en intégralité ce samedi dès 19h temps universel sur RFI.